RCF.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur RCF pour la chronique Europe de la Maison de l'Europe, Europe Direct Limousin. Comme nous l'avons déjà évoqué avec Guy Royer dernièrement, qui est bénévole à la Maison de l'Europe, la BFM de Limoges et la Maison de l'Europe consacrent le mois de novembre à la Hongrie, qui assure la présidence tournante du Conseil de l'Union Européenne jusqu'à la fin de l'année. Pour cette occasion, de nombreuses manifestations ont été programmées à la BFM, dont un café de l'Europe et un panorama littéraire. Ce samedi 23 novembre, Jean-Pierre Foultier, bénévole et administrateur à la Maison de l'Europe, animera un panorama sur le cinéma hongrois, qui sera suivi de la projection du film Just the Wind. Et pour en découvrir davantage sur la culture hongroise, nous l'accueillons aujourd'hui. Bonjour Jean-Pierre, merci d'être avec nous.
Bonjour Marie-Lou, avec plaisir.
Un patrimoine culturel hongrois, donc je disais, qui, je suppose, est l'héritier d'une histoire pour le moins foisonnante et complexe.
Lier la culture d'un pays à sa géographie et à son histoire n'est pas une idée particulièrement originale. Pour la Hongrie, c'est même une évidence, tant ce petit État d'une dizaine de millions d'habitants ancré au cœur du continent européen et ballotté au fil des siècles entre Occident et Orient constitue un véritable carrefour culturel. En effet, le territoire hongrois a été soumis à de successives dominations, celtes, romains, ostrogoths, huns et autres peuplades européennes ou eurasiennes. Et ce n'est qu'autour de l'an 1000 qu'un royaume de Hongrie s'est constitué et que le catholicisme s'y est imposé avant qu'au milieu du XVIe siècle, le pays perde sa souveraineté. Il sera dominé pendant plus d'un siècle par le puissant empire ottoman, puis tombera sous la coupe de son voisin autrichien et de la dynastie des Habsbourg. Toutes ces dominations laisseront des traces, disons, profondes dans son patrimoine culturel.
Et justement, quel exemple pouvez-vous nous donner de ce mélange d'influences ?
Alors, je vais commencer, si vous le voulez bien, que l'on soit ou pas d'ailleurs à l'heure du déjeuner, par la tradition culinaire hongroise. Si une grande partie de sa cuisine, grande consommatrice de choux, de bœuf, porc et volaille, est commune à celle d'autres sociétés d'Europe centrale, l'influence orientale y est aussi très présente, ne serait-ce que par l'utilisation intensive du paprika dans son goulash ou dans les soupes dont les Hongrois sont de grands consommateurs, tout comme elle l'est dans son héritage de la cuisine juive askénaze. Une influence culinaire de l'Autriche voisine à laquelle elle emprunte, entre autres, son art de la pâtisserie.
Et ce sont des influences aussi que l'on retrouve certainement dans les monuments.
Le patrimoine architectural hongrois, et celui des églises de Budapest en tout premier lieu, est également le fruit de cette longue histoire multiculturelle. Du gothique de l'église Mathias au néoclassique de la basilique Saint-Étienne. Si les influences de l'Empire ottoman sont visibles sur de nombreux bâtiments, le style architectural le plus intéressant, à mon avis, de la capitale hongroise est très certainement celui de l'Art nouveau, dont le musée des arts décoratifs, inspiré aussi de l'art oriental, est un des plus emblématiques. Lui succéderont des réalisations se réclamant de l'expérience allemande du Bauhaus, puis, sous l'ère communiste, les imposantes constructions caractéristiques de ce que l'on appelait le réalisme socialiste. Je rajouterai que Budapest est, du point de vue patrimonial et touristique, en concurrence avec une autre capitale d'Europe centrale, Prague. Elles sont présentées toutes deux comme des escapades idéales pour un week-end, toutes deux situées sur de célèbres cours d'eau, la Vltava, la Moldau à Prague, et le Danube à Budapest, et toutes deux possèdent un patrimoine remarquable, ponts, palais, églises. La capitale hongroise, comme la capitale tchèque, ont su aussi intégrer à ce passé, disons très très romantique, la culture contemporaine, ce qui a pu permettre à ces villes-musées d'en éviter jusque-là les travers.
Et quel autre domaine de la culture hongroise vous voulez nous faire découvrir ?
Celui qui nous est le plus familier est incontestablement celui de la musique classique. Si le folklore traditionnel hongrois ou des tziganes de Hongrie reste très vivant et ont inspiré de nombreux compositeurs hongrois, mais aussi européens, ce sont les compositeurs hongrois qui ont donné à la musique classique ses plus grands noms, celui de Franz Liszt, bien sûr, mais aussi ceux de Béla Bartók et de Zoltán Kodály.
Et justement, parlez-nous un peu de ce grand compositeur qu'a été Liszt.
Bien sûr. Franz Liszt est, à l'évidence, un personnage complexe. Né dans la petite ville de Reding, dans une Hongrie rattachée alors à l'Empire d'Autriche et dont il est devenu une célébrité, c'est dans de nombreuses capitales d'Europe que très tôt, comme l'avait fait avant lui le jeune Mozart, il voyagera, séjournera et où ses récitals connaîtront un succès inouï. S'il est un pianiste virtuose, il est aussi un des compositeurs majeurs de ce 19e siècle romantique, tout en annonçant les formes musicales dont s'inspireront ses contemporains, les Chopin, Wagner, Berlioz, mais aussi de grands compositeurs du 20e siècle. Or, c'est un artiste adulé, un séducteur insatiable et un ami de nombre de compositeurs des célébrités de l'époque, parmi lesquels Victor Hugo, Balzac, Lamartine ou Delacroix. Il est aussi épris, alors c'est plus curieux, de mysticisme. Il recevra même les ordres à la fin de sa vie et s'est passionné pour les idées sociales de Saint-Simon. Vraiment un personnage très éclectique. C'est d'ailleurs dans la lignée de Liszt que Béla Bartók s'imposera comme un des grands musiciens avant-gardistes du XXe siècle, puisant comme lui dans le folklore hongrois l'inspiration de plusieurs de ses œuvres. Chassé par la montée du nazisme, il s'exile aux États-Unis et meurt à New York en 1945. Zoltán Kodály, dont j'ai parlé aussi, réutilisera lui aussi cette même tradition folklorique, tout en étant considéré comme le réformateur de la musique hongroise.
Donc voilà pour la musique et dans le domaine de la littérature.
Alors contrairement au nom des musiciens dont nous venons de parler, ceux des auteurs hongrois nous sont infiniment moins familiers. Si la musique peut effectivement apparaître comme une sorte, on peut dire, d'espéranto européen, la littérature, elle, et notamment celle de ces pays d'Europe centrale, est plus étroitement liée à son terroir et à sa société d'origine. Les différentes dominations sous lesquelles a été soumis le pays ont rendu difficile l'émergence d'une littérature nationale. Le fait que, par ailleurs, la langue des Magyars, le hongrois, d'origine finno-ougrienne, ne soit pas de la même souche que la plupart de celles des autres pays européens, peut apparaître comme un facteur supplémentaire d'isolement. Des poètes comme Sándor Petőfi, encore très vénérés à Budapest, ont contribué à en faire une langue de culture. Il faut attendre le XXe siècle pour que des auteurs hongrois, et notamment des romanciers, trouvent leur place au sein de la littérature européenne. Cela a été le cas d'Imre Kertész, prix Nobel de littérature en 2002, dont l'œuvre sous le titre général d'Auschwitz est centrée sur son expérience concentrationnaire. Journaliste antistalinien, Kertész a dû s'exiler pour échapper à la répression du régime, comme l'a fait également l'écrivaine Agota Christophe après l'échec de l'insurrection anti-soviétique de 1956 et la répression qui lui a succédé. Citons également Péter Nadas, auteur hongrois le plus lu en France, paraît-il, ou Magda Szabó, qui a obtenu le prix féminin étranger en 2003. Les romans de László Krasznahorkai, pardon pour la prononciation, notamment Tango de Satan et La mélancolie de la résistance, sont, eux, très liés à la création cinématographique hongroise et particulièrement au cinéaste Bélatar qui les a portés à l'écran, le second sous le titre d'Harmonie Werkmeister.
Voilà qui fait une parfaite transition avec le cinéma hongrois sur lequel vous avez travaillé et dont vous présenterez un panorama, comme je l'ai déjà mentionné dans mon introduction, ce samedi 23 novembre à la BFM de Limoges.
Oui, une cinématographie hongroise qui reste, il faut bien l'avouer, encore très confidentielle, sinon assez méconnue. Qui connaît en effet les noms des plus grands réalisateurs hongrois dont je vais parler, Miklós Jankso, István Szabó ou Bélatar, même si beaucoup d'entre eux ont reçu la reconnaissance de grands festivals européens. Je vais vous les présenter, si vous le voulez bien. Miklós Jancsó, qui a connu la répression du régime pro-soviétique, est un cinéaste engagé dans le film Psaume Rouge, film sur une révolte populaire dans la Hongrie de la fin du XIXe siècle, ou encore dans Rouge et Blanc, qui évoque l'affrontement entre révolutionnaires russes et troupes tsaristes en 1917. Ivan Tsabo, lui, qui est né en 1938, s'est fait connaître internationalement avec notamment trois films tournés en allemand, Mephisto, Anusen et Colonel Reddle, avec son acteur fétiche, Karl Maria Brandauer. Alors le cinéma hongrois, tout au moins celui qui est connu par les cinéphiles occidentaux, se révèle d'une particulière noirceur. Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, le film de Géza Radvani, tourné en 1947 quelque part en Europe, décrivait avec âpreté la misère des orphelins de guerre. Bien plus tard, en 2015, c'est un jeune réalisateur, László Németh, qui rencontre des horreurs des camps de concentration dans le très sombre « Fils de Saul », qui reçut l'Oscar du meilleur film en langue étrangère en 2016. C'est le cas également de Just the Wind, ce film de 2012 qui sera diffusé à la BFM le 23 novembre et qui évoque le sort malheureux des Roms de Hongrie. Un cinéma à l'esthétique exigeante aussi, comme les celles des films de Bélatar, dont Le Cheval de Turin, qui a reçu l'Ours d'Argent à Berlin en 2011, ou les Harmonies Werkmeister dont je viens de parler.
Ce qui nous fait au final un paysage culturel riche que vous nous décrivez donc.
Bien sûr. Et même si en dehors des quelques, on va les appeler les stars, que sont Franz Liszt ou la ville de Budapest, le patrimoine culturel hongrois reste très méconnu des Européens occidentaux. S'il n'est pas toujours facile d'accès, sa diversité et sa richesse en font toutefois une des composantes majeures de la culture européenne. Au moment où le gouvernement de M. Orban préside, avec le sens aigu de la provocation que nous lui connaissons, le Conseil de l'Union européenne, la culture profonde de ce peuple maintes fois malmené mérite le détour, autant que le méritent les joyaux de sa capitale, Budapest.
Eh bien, merci beaucoup Jean-Pierre pour le temps que vous nous avez accordé.
Ouais.
Merci aux auditeurs de nous avoir écoutés. Et si cette chronique vous a mis l'eau à la bouche, rendez-vous le samedi 23 novembre à la BFM de Limoges. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine chronique.